C'était quand la dernière fois où vous vous êtes senti libre? Vraiment libre, hein? Vous savez, cette idée que les contours de nos vies sont sans doute beaucoup, beaucoup plus vastes qu'on peut l'imaginer. L'idée, par exemple, qu'on a aussi tout le temps devant soi pour faire les choses. C'est rare, ça. Ou bien que notre corps bouge librement. L'idée de la liberté quand tout est possible. Alors moi, ça, c'est un sujet qui m'a toujours vraiment enthousiasmée, et c'est pour ça que je me suis installée dans un monastère bouddhiste pendant 15 années. Là-bas, j'ai beaucoup appris, notamment grâce au maître zen Olivier Wangen. Et puis, il faudrait un TEDx complet pour vous raconter comment j'ai débarqué là-bas, tout ce qui s'est passé. La vie dans un monastère, c'est vraiment très spécial. Mais aujourd'hui, j'ai surtout envie de partager avec vous trois enseignements clés, trois expériences très marquantes qui m'ont permis de trouver aujourd'hui une certaine sérénité intérieure. Le premier enseignement, je l'ai appelé « le petit oiseau du soleil levant ». Ça, c'est mon côté un peu poétique. Et l'histoire se passe au Japon, où je me suis lancée la tête la première dans l'aventure d'une retraite traditionnelle zen. Donc on est en 2008, j'ai atterri à Nagoya dans un monastère de nonnes, duquel, selon la légende, toutes les personnes qui arrivent, toutes les nonnes occidentales qui arrivent là, repartent à peine arrivées. En effet, les conditions de pratique sont très très ascétiques, il n'y a vraiment rien du confort moderne. Il n'y a pas d'eau chaude, tout se passe à l'eau froide, alors du coup mes mains vont faire la découverte de ce que c'est les crevasses et les engelures. On est en plein hiver et il n'y a pas de chauffage. Une très grande promiscuité aussi entre les personnes, on a une chambre comme ça de 10 mètres carrés qu'on partage à 6 ou 7 en fonction des périodes. Des activités soutenues du matin au soir, c'est pas zen comme ça, hein. C'est tac, 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 ça avance dans tous les sens. Et puis tout ça en langue japonaise, langue dont ma connaissance se résume à peu près au chevalier du zodiaque. Alors je suis un peu paumée là-dedans. Et puis le but de tout ça, de cet enseignement traditionnel très précieux, évidemment, c'est de nous pousser dans les limites jusqu'au lâcher-prise. Au bout de 3 semaines, mon lâcher-prise à moi, c'est que j'en ai... Ouais, j'ai tenu 3 semaines quand même. Au bout de 3 semaines, j'en ai ras-le-bol. C'est trop. Et un matin, dans ce monastère, là-bas, toute seule, sans contact avec l'Europe, rien, je décide de partir. Et ce jour-là, à l'intérieur de moi, c'est un peu une immense déception. J'ai mis tellement, tellement d'espoir dans ce voyage. Et je suis là, vraiment avec la boule au ventre. Je rassemble mes affaires dans la chambre, il n'y a plus personne, je suis toute seule. Et à un moment donné, je lève la tête comme ça. Et par la fenêtre, je vois comme ça, juste derrière la fenêtre, il y a une branche avec de la neige et dessus, un petit oiseau. Et il est tellement délicat. Il est tellement beau. Il est là, vous savez, il se secoue un petit peu comme ça pour lisser ses plumes. Et moi, à ce moment-là, l'émotion de ressentiment et de déception, elle laisse la place à de l'émerveillement devant la splendeur. Une grande tendresse comme ça qui surgit des profondeurs. Et si c'était ça, l'enseignement que j'étais allée chercher à 10 000 km. Les émotions et les pensées, en général, sont impermanentes. Ça veut dire qu'elles apparaissent et qu'elles peuvent aussi disparaître. Un instant, c'est la colère. L'instant d'après, c'est l'émerveillement devant la splendeur du monde. Et je pense qu'on a tous fait cette expérience, chacun dans nos vies quotidiennes. Par exemple, au boulot, où il y a un collègue qui nous énerve, où on a des conflits, des trucs qui ne se passent pas bien. On ressasse, etc. Et puis, un coup de fil d'un ami qui raconte une blague ou qui nous raconte un truc marrant, et tout d'un coup, on éclate de rire. Il y a cette capacité à l'intérieur de nous. Ça, c'est le premier enseignement. Les émotions sont impermanentes. Et c'est un petit oiseau qui me l'a dit. Le deuxième enseignement, alors celui-là, il est un peu différent, encore que, mais je l'ai appelé « Il y a quoi dans ma tête ?» Il y a quoi ? Je ne vais pas tout vous dire, hein, non, non. Il y a quoi dans ma tête ? C'est en fait cette idée que pour que les émotions soient impermanentes, c'est-à-dire qu'elles apparaissent et qu'elles disparaissent, ok, ça c'est bien, mais il ne faut pas les ressasser. En général, on a plutôt tendance à boucler, quoi. Il y a un truc qui se passe, ça ne nous plaît pas, et puis on rumine, on a tous ce fonctionnement un peu naturel à l'intérieur de nous. Et pour pouvoir arrêter de ruminer, c'est vraiment très important de comprendre et de réaliser qu'on est en train de le faire. Donc, de mieux commettre, mieux connaître, mieux savoir ce qu'on a dans la tête. Il y a quoi dans ma tête ? Alors, ça, j'ai fait l'expérience aussi une fois. J'étais assise en méditation, en mode Bouddha paisible. J'arriverai pas à le faire, là, je crois. Voilà, en mode Bouddha paisible. Et à ce moment-là, le maître dit « Laissez passer vos pensées et vos émotions comme des petits nuages dans le ciel. » Oh, c'était beau, et ça m'a mis dans une rage terrible, parce que moi, mes émotions et mes pensées, à ce moment-là, ce n'était pas des petits nuages paisibles et vaporeux dans un ciel azuré, c'était plutôt des gros cumulonimbus bien noirs, bien compacts, et qui avaient tendance à stagner. Donc, en apparence, Bouddha paisible à l'intérieur, ça bouillonnait. Alors, comme vous pouvez vous en rendre compte, j'étais super motivée pour réussir à faire ça. Donc, j'ai beaucoup étudié et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire gagner du temps parce que moi, ça a pris un peu de temps quand même. Et donc, je voudrais vous proposer là tout de suite un petit exercice. Vous êtes d'accord ? Alors, installez-vous confortablement dans vos fauteuils. Voilà, petit moment de détente. Et vous allez pouvoir étudier, découvrir avec passion ce qu'il y a dans votre tête et dans votre corps. Fermez les yeux maintenant. Concentrez-vous tout d'abord sur le contact du corps sur votre fauteuil. Prenez conscience que vous êtes là, assis dans cette pièce à cette heure-ci de la journée. Ça, c'est l'instant présent. On est où là tout de suite ? Et puis, vous allez pouvoir partir un petit peu en exploration, devenir les Indiana Jones de votre mental. Et pour vous aider, je vais vous guider par rapport aux formes que peuvent prendre les pensées. Vous pouvez peut-être avoir maintenant des pensées sous forme d'images, comme un film qui déroule à l'intérieur de soi, ou des flashs de lumière, ou bien parfois c'est un souvenir de l'endroit dans lequel on est, ou de la personne qui est en train de parler en ce moment. Ça, c'est ce qu'on appelle les images mentales visuelles. Et pour d'autres personnes, ça peut être des sons, et notamment ce qu'on appelle la petite voix dans la tête. Alors celle-là, des fois, elle est très très bavarde. C'est une petite voix qui commente, qui raconte, qui analyse, qui dit des bouts de phrases et puis des fois aussi qui chante à l'intérieur. La petite voix dans la tête, c'est le dialogue intérieur. Il y a quoi dans vos têtes ? Des images ? Une voix, une petite voix intérieure ? Et la troisième forme, celle-là, on l'appelle le kinesthésique, c'est en fait tout le domaine des sensations qu'on a dans le corps. C'est-à-dire le chaud, le froid, le contact du fauteuil, par exemple, le lourd, le léger. Mais aussi, dans cette catégorie, il y a tout le domaine des émotions qu'on ressent dans le corps. La joie, la colère, la tristesse, tout ça. Trois formes possibles de penser. Dans un instant, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et vous en saurez plus sur votre fonctionnement intérieur. Est-ce que vous êtes davantage dans les images, dans la petite voix dans la tête ou dans les émotions, le ressenti corporel, etc. Voilà. Alors, c'est très agréable, mais vous allez pouvoir ouvrir les yeux maintenant avec une nouvelle connaissance sur vous, déjà. Première étape. Et c'est... C'est intéressant de savoir ça parce que du coup, on peut mieux observer comment on fonctionne. Donc chacun d'entre vous peut déjà le faire dans la journée, à n'importe quel moment. Et puis, il y a eu le troisième événement marquant, le troisième enseignement. Alors celui-là, j'ai vraiment découvert par hasard. J'ai appelé le périscope, vous allez voir pourquoi juste après. Celui-là, je l'ai découvert un peu plus tôt déjà, en 2003. En 2003, à l'époque, je donnais encore des concerts de chansons françaises pour des Américains. Devant des publics, il y avait à chaque fois 150, 200 personnes. Et puis, lors du premier concert, voilà, j'arrive sur scène, comme ça, comme ce soir en fait, mais je n'avais pas les mêmes habits ni la même coupe. Et puis, je commence à chanter ce répertoire. Et là, le trac. Les jambes qui flageolent, le cœur qui bat à 10 000, tous les symptômes du trac qui apparaissent, comme ça. À l'époque, heureusement, je pratiquais déjà beaucoup la méditation. Et en même temps que tout ça se manifeste, il y a une forme de conscience d'observation qui s'installe de façon tout à fait spontanée et automatique. C'est-à-dire que je chante, je ressens le trac à l'intérieur du corps, quelques symptômes comme ça. Et en même temps, il y a une conscience qui permet que je garde la tête hors de l'eau. Ma tête est libre. Et du coup, je peux continuer mon concert. Alors imaginez, je suis là, je commence à chanter, j'ai le trac. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Et au même moment, ça observe. On dit ça, ça, c'est la conscience témoin, conscience d'observation. Ça observe l'émotion, et en même temps que c'est observé, et ça, c'est magique, l'émotion, elle décroît. Il suffit juste de l'observer pour que, peu à peu, les émotions désagréables apparaissent et disparaissent naturellement, comme ce dont je vous parlais au début. Voilà, ça j'ai appelé ça le périscope. Alors pourquoi ? Parce que vous connaissez le périscope, c'est l'espèce de tige qu'il y a au-dessus des sous-marins, puis qui peut se lever un petit peu comme ça, hors de l'eau, comme un canard, pour observer le paysage. Et cette forme de conscience, on est à la fois dans l'eau et à l'extérieur de l'eau, on est à la fois associé et dissocié de l'expérience, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, ce qui veut dire que quand même, on est très vivant, on ressent complètement les choses, parce qu'on ne veut pas devenir des robots comme ça, mais on a la tête libre et un profond soulagement à l'intérieur de soi. C'était le troisième événement marquant de ces dernières années. Donc le premier, les émotions apparaissent et disparaissent naturellement. Le deuxième, on a la possibilité de connaître soi-même la forme que prennent nos pensées et nos émotions, visuelles, auditives, la petite voix dans la tête, ou kinesthésiques, les ressentis du corps. Et la troisième, il est possible de découvrir cette merveilleuse conscience d'observation, conscience témoin, qui permet d'être tout à fait présent aux choses et complètement libre. C'est chouette, non ? Alors, c'est pas fini, parce que pour terminer, j'ai envie de vous proposer un petit rituel pour la journée. Un petit rituel du matin plutôt, hein, parce que le matin, c'est un moment clé de notre journée, qui va vous permettre d'intégrer, voire d'incarner complètement ces trois choses en un exercice. Ça vous dit ? Alors, imaginez-vous le matin. Le réveil sonne. OK. Alors là, généralement, on met la fonction répétition, une fois, deux fois, et à un moment donné, il faut se lever. À ce moment-là, ce que je vous propose, soit vous êtes allongé, soit vous vous mettez déjà sur le bord du lit, ce que je vous propose, qui peut changer vos vies, c'est de prendre conscience de votre première pensée du matin. Juste ça. Est-ce que c'est une image ? Est-ce que c'est une petite voix dans la tête, est-ce que c'est une émotion, une sensation dans le corps? puis de la deuxième et de la troisième. À ce moment-là, naturellement, vous allez, comme ça, changer votre mode habituel, devenir conscient de ce petit ronron, de ce petit moulin qu'on a dans la tête. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'à ce moment-là, on se lève, non plus comme des robots, et puis on se dirige vers la machine à café, et puis on n'est pas encore vraiment bien réveillé, non. On se lève en pleine conscience, en retrouvant à l'intérieur de soi une liberté, plus comme des robots, mais vraiment acteur de son quotidien. Ça, ça procure, je vous le garantis, un grand soulagement à l'intérieur. Et là, on sait que dans notre journée qui suit, dans la journée qui suit, tout est possible.